La semaine suivante lui apporta deux événements. Il fut nommé chef des échos et invité à dîner chez Madame Walter. Il vit tout de suite un lien entre les deux nouvelles. La Vie française était avant tout un journal d'argent, le patron étant un homme d'argent à qui la presse et la députation avaient servi de levier. Se faisant de la bonhomie une arme, il avait toujours manœuvré sous un masque souriant de brave homme. Mais il n'employait à ses besognes, quelles qu'elles fussent, que des gens qu'il avait tâtés, éprouvés, flairés, qu'il sentait retors, audacieux et souples. Duroy, nommé chef des échos, lui semblait un garçon précieux. Cette fonction avait été remplie jusque-là par le secrétaire de la rédaction, M. Boisrenard, un vieux journaliste correct, ponctuel et méticuleux comme un employé. Depuis 30 ans, il avait été secrétaire de la rédaction de 11 journaux différents, sans modifier en rien sa manière de faire ou de voir. Il passait d'une rédaction dans une autre comme on change de restaurant, s'apercevant à peine que la cuisine n'avait pas tout à fait le même goût. Les opinions politiques et religieuses lui demeuraient étrangères. Il était dévoué au journal, quel qu'il fût, entendu dans la besogne et précieux par son expérience. Il travaillait comme un aveugle qui ne voit rien, comme un sourd qui n'entend rien, et comme un muet qui ne parle jamais de rien. Il avait cependant une grande loyauté professionnelle, et il ne se fut point prêté à une chose qu'il n'aurait pas jugée honnête, loyale et correcte au point de vue spécial de son métier. M. Walter, qui l'appréciait cependant, avait souvent désiré un autre homme pour lui confier les échos, qui sont, disait-il, la moelle du journal. C'est par eux qu'on lance les nouvelles, qu'on fait courir les bruits, qu'on agit sur le public et sur la rente. Entre deux soirées mondaines, il faut savoir glisser, sans avoir l'air de rien, la chose importante, plutôt insinuée que dite. Il faut, par des sous-entendus, laisser deviner ce qu'on veut, démentir de telle sorte que la rumeur s'affirme, ou affirmer de telle manière que personne ne croit au fait annoncé. Il faut que dans les échos, chacun trouve chaque jour une ligne au moins qui l'intéresse, afin que tout le monde les lise. Il faut penser à tout et à tous, à tous les mondes, à toutes les professions, à Paris et à la province, à l'armée et aux peintres, aux clergés et à l'université, aux magistrats et aux courtisanes. L'homme qui les dirige et qui commande au bataillon des reporters doit être toujours en éveil et toujours en garde, méfiant, prévoyant, rusé, alerte et souple, armé de toutes les astuces et doué d'un flair infaillible pour découvrir la nouvelle fausse du premier coup d'œil, pour juger ce qui est bon à dire et bon à celer, pour deviner ce qui portera sur le public. Et il doit savoir le présenter de telle façon que l'effet en soit multiplié. M. Boisrenard, qui avait pour lui une longue pratique, manquait de maîtrise et de chic. Il manquait surtout de la rouerie native qu'il fallait pour pressentir chaque jour les idées secrètes du patron. Duroy devait faire l'affaire en perfection et il complétait admirablement la rédaction de cette feuille qui naviguait sur les fonds de l'État et sur les bas-fonds de la politique, selon l'expression de Norbert de Varenne. Les inspirateurs et véritables rédacteurs de la Vie française étaient une demi-douzaine de députés intéressés dans toutes les spéculations que lançait ou que soutenait le directeur. On les nommait à la Chambre « la bande à Walter » et on les enviait parce qu'ils devaient gagner de l'argent avec lui et par lui. Forestier, rédacteur politique, n'était que l'homme de paille de ces hommes d'affaires, l'exécuteur des intentions suggérées par eux. Il lui soufflait ses articles de fond qu'il allait toujours écrire chez lui pour être tranquille, disait-il. Mais afin de donner au journal une allure littéraire et parisienne, on y avait attaché deux écrivains célèbres en des genres différents, Jacques Rival, chroniqueur d'actualité, et Norbert de Varenne, poète et chroniqueur fantaisiste, ou plutôt conteur, suivant la nouvelle école. Puis on s'était procuré, à bas prix, des critiques d'art, de peinture, de musique, de théâtre, un rédacteur criminaliste et un rédacteur hippique, parmi la grande tribu mercenaire des écrivains à tout faire. Deux femmes du monde, Domino Rose et Pâte Blanche, envoyaient des variétés mondaines, traitaient les questions de mode, de vie élégante, d'étiquette, de savoir-faire, et commettaient des indiscrétions sur les grandes dames. Et la Vie française naviguait sur les fonds et bas-fonds, manœuvrée par toutes ces mains différentes. Du roi était dans toute la joie de sa nomination aux fonctions de chef des échos quand il reçut un petit carton gravé où il lut « Monsieur et Madame Walter prient Monsieur Georges du roi de leur faire le plaisir de venir dîner chez eux le jeudi 20 janvier. » Cette nouvelle faveur, tombant sur l'autre, l'emplit d'une telle joie qu'il baisa l'invitation comme il eût fait d'une lettre d'amour. Puis il alla trouver le caissier pour traiter la grosse question des fonds. Un chef des échos a généralement son budget sur lequel il paye ses reporters et les nouvelles, bonnes ou médiocres, apportées par l'un ou l'autre, comme les jardiniers apportent leurs fruits chez un marchand de primeurs. 1200 francs par mois au début étaient alloués à Duroy, qui se proposait bien d'en garder une forte partie. Le caissier, sur ses représentations pressantes, avait fini par lui avancer 400 francs. Il eut, au premier moment, l'intention formelle de renvoyer à Madame de Marelle les 280 francs qu'il lui devait. Mais il réfléchit presque aussitôt qu'il ne lui resterait plus entre les mains que 120 francs, somme tout à fait insuffisante pour faire marcher d'une façon convenable son nouveau service. Et il remit cette restitution à des temps plus éloignés. Pendant 2 jours, il s'occupa de son installation, car il héritait d'une table particulière et de casiers à lettres, dans la vaste pièce commune à toute la rédaction. Il occupait un bout de cette pièce, tandis que Boisrenard, dont les cheveux d'un noir d'ébène, malgré son âge, étaient toujours penchés sur une feuille de papier, tenait l'autre bout. La longue table du centre appartenait au rédacteur volant. Généralement, elle servait de banc pour s'asseoir, soit les jambes pendantes le long des bords, soit à la turque sur le milieu. Ils étaient quelquefois 5 ou 6 accroupis sur cette table, et jouant au bilboquet avec persévérance, dans une pose de magot chinois. Duroy avait fini par prendre goût à ce divertissement, et il commençait à devenir fort, sous la direction et grâce au conseil de Saint-Potin. Forestier, de plus en plus souffrant, lui avait confié son beau bilboquet en bois des îles, le dernier acheté, qu'il trouvait un peu lourd, et Duroy manœuvrait d'un bras vigoureux la grosse boule noire au bout de sa corde en comptant tout bas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il arriva justement, pour la première fois, à faire 20 points de suite, le jour même où il devait dîner chez Madame Walter. « Bonne journée, » pensa-t-il. « J'ai tous les succès. » Car l'adresse au bilboquet conférait vraiment une sorte de supériorité dans les bureaux de la vie française. Il quitta la rédaction de bonne heure pour avoir le temps de s'habiller et il remontait la rue de Londres quand il vit trotter devant lui une petite femme qui avait la tournure de Madame de Marelle. Il sentit une chaleur lui monter au visage et son cœur se mit à battre. Il traversa la rue pour la regarder de profil. Elle s'arrêta pour traverser aussi. Il s'était trompé. Il respira. Il s'était souvent demandé comment il devrait se comporter en la rencontrant face à face. La saluerait-il ou bien aurait-il l'air de ne la point voir? « Je ne la verrai pas », pensa-t-il. Il faisait froid. Les ruisseaux gelés gardaient des empattements de glace. Les trottoirs étaient secs et gris sous la lueur du gaz. Quand le jeune homme entra chez lui, il songea « Il faut que je change de logement. Cela ne me suffit plus maintenant. » Il se sentait nerveux et gai, capable de courir sur les toits, et il répétait tout haut, en allant de son lit à la fenêtre « C'est la fortune qui arrive ! C'est la fortune ! Il faudra que j'écrive à papa !» De temps en temps, il écrivait à son père. Et la lettre apportait toujours une joie vive dans le petit cabaret normand, au bord de la route, au haut de la grande côte d'où l'on domine Rouen et la large vallée de la Seine. De temps en temps aussi, il recevait une enveloppe bleue dont l'adresse était tracée d'une grosse écriture tremblée, et il lisait infailliblement les mêmes lignes au début de la lettre paternelle. « Mon cher fils, la présente est pour te dire que nous allons bien, ta mère et moi. Pas grand-chose de nouveau dans le pays. Je t'apprendrai cependant. » Et il gardait au cœur un intérêt pour les choses du village, pour les nouvelles des voisins et pour l'état des terres et des récoltes. Il se répétait, en nouant sa cravate blanche devant sa petite glace, « Il faut que j'écrive à papa dès demain. S'il me voyait ce soir, dans la maison où je vais, serait-il épaté, le vieux ? Sacristie, je ferai tout à l'heure un dîner comme il n'en a jamais fait. » Et il revit brusquement la cuisine noire de là-bas, derrière la salle de café vide, les casseroles, jetant des lueurs jaunes le long des murs, le chat dans la cheminée, le nez au feu, avec sa pose de chimère accroupie, la table de bois graissée par le temps et par les liquides répandus, une soupière fumante au milieu et une chandelle allumée entre deux assiettes. Et il les aperçut aussi, l'homme et la femme, le père et la mère, les deux paysans aux gestes lents, mangeant la soupe à petites gorgées. Il connaissait les moindres plis de leurs vieilles figures, les moindres mouvements de leurs bras et de leurs têtes. Il savait même ce qu'ils se disaient, chaque soir, en soupant face à face. Il pensa encore, « Il faudra pourtant que je finisse par aller les voir. » Mais comme sa toilette était terminée, il souffla sa lumière et descendit. Le long du boulevard extérieur, des filles l'accostèrent. Il leur répondait en dégageant son bras, « Fichez-moi donc la paix !» avec un dédain violent, comme si elles l'eussent insulté, méconnu. Pour qui le prenait-elle? Ces rouleuses-là ne savaient donc point distinguer les hommes? La sensation de son habit noir endossé pour aller dîner chez des gens très riches, très connus, très importants, lui donnait le sentiment d'une personnalité nouvelle, la conscience d'être devenu un autre homme, un homme du monde, du vrai monde. Il entra avec assurance dans l'antichambre éclairée par les hautes torchères de bronze et il remit, d'un geste naturel, sa canne et son pardessus aux deux valets qui s'étaient approchés de lui. Tous les salons étaient illuminés. Madame Walter recevait dans le second, le plus grand. Elle l'accueillit avec un sourire charmant et il serra la main des deux hommes arrivés avant lui. Monsieur Firmin et Monsieur Laroche-Mathieu, députés, rédacteurs anonymes de la Vie française. Monsieur Laroche-Mathieu avait dans le journal une autorité spéciale provenant d'une grande influence sur la Chambre. Personne ne doutait qu'il ne fût ministre un jour. Puis arrivèrent les forestiers, la femme en rose et ravissante. Duroy fut stupéfait de la voir intime avec les deux représentants du pays. Elle causa tout bas, au coin de la cheminée, pendant plus de 5 minutes avec Laroche-Mathieu. Charles paraissait exténué. Il avait beaucoup maigri depuis 1 mois et il toussait sans cesse en répétant « Je devrais me décider à aller finir l'hiver dans le midi. » Norbert de Varenne et Jacques Rival apparurent ensemble. Puis une porte s'étant ouverte au fond de l'appartement, Monsieur Walter entra avec deux grandes jeunes filles de 16 à 18 ans, une laide et l'autre jolie. Duroy savait pourtant que le patron était père de famille, mais il fut saisi d'étonnement. Il n'avait jamais songé aux filles de son directeur que comme on songe aux pays lointains qu'on ne verra jamais. Et puis, il se les était figurées toutes petites, et il voyait des femmes. Il en ressentait le léger trouble moral que produit un changement à vue. Elles lui tendirent la main, l'une après l'autre, après la présentation, et elles allèrent s'asseoir à une petite table qui leur était sans doute réservée, où elles se mirent à remuer un tas de bobines de soie dans une bannette. On attendait encore quelqu'un et on demeurait silencieux, dans cette sorte de gêne qui précède les dîners entre gens qui ne se trouvent pas dans la même atmosphère d'esprit, après les occupations différentes de leur journée. Duroy, ayant levé par désœuvrement les yeux vers le mur, M. Walter lui dit de loin, avec un désir visible de faire valoir son bien, « Vous regardez mes tableaux !» Le « mais » sonna. « Je vais vous les montrer. » Et il prit une lampe pour qu'on pût distinguer tous les détails. « Ici, les paysages, » dit-il. Au centre du panneau, on voyait une grande toile de Guillemets, une plage de Normandie sous un ciel d'orage. Au-dessous, un bois de Harpigny, puis une plaine d'Algérie par Guillaumet, avec un chameau à l'horizon, un grand chameau sur ses hautes jambes, pareil à un étrange monument. Monsieur Walter passa au mur voisin et annonça avec un ton sérieux, comme un maître de cérémonie, « La grande peinture !» C'était 4 toiles, une visite d'hôpital, par Gervex, une moissonneuse par Bastien Lepage, une veuve par Bougreau et une exécution par Jean-Paul Laurens. Cette dernière œuvre représentait un prêtre vendéen fusillé contre le mur de son église par un détachement de bleus. Un sourire passa sur la figure grave du patron en indiquant le panneau suivant « Ici, les fantaisistes ». On apercevait d'abord une petite toile de Jean Béraud, intitulé « Le haut et le bas », C'était une jolie Parisienne montant l'escalier d'un tramway en marche. Sa tête apparaissait au niveau de l'impériale et les messieurs assis sur les bancs découvraient, avec une satisfaction avide, le jeune visage qui venait vers eux, tandis que les hommes debout sur la plateforme du bas considéraient les jambes de la jeune femme avec une expression différente de dépit et de convoitise. Monsieur Walter tenait la lampe à bout de bras et répétait en riant d'un rire polisson « Hein? Est-ce drôle? Est-ce drôle ?» Puis il éclaira un sauvetage par Lambert. Au milieu d'une table desservie, un jeune chat, assis sur son derrière, examinait avec étonnement et perplexité une mouche se noyant dans un verre d'eau. Il avait une patte levée, prêt à cueillir l'insecte d'un coup rapide. Mais il n'était point décidé. Il hésitait. Que ferait-il? Puis le patron montra un détail, la leçon, qui représentait un soldat dans une caserne, apprenant à un caniche à jouer du tambour. Et il déclara « En voilà de l'esprit !» Duroy riait d'un rire approbateur et s'extasiait. Comme c'est charmant! Comme c'est charmant! Cha... Il s'arrêta net, en entendant derrière lui la voix de Madame de Marelle qui venait d'entrer. Le patron continuait à éclairer les toiles en les expliquant. Il montrait maintenant une aquarelle de Maurice Leloir, l'obstacle. C'était une chaise à porteurs arrêtée, la rue se trouvant barrée par une bataille entre deux hommes du peuple, deux gaillards luttant comme des Hercules. Et on voyait sortir par la fenêtre de la chaise un ravissant visage de femme qui regardait sans impatience, sans peur, et avec une certaine admiration le combat de ces deux brutes. Monsieur Walter disait toujours « J'en ai d'autres dans les pièces suivantes, mais ils sont de gens moins connus, moins classés. Ici, c'est mon salon carré. J'achète des jeunes en ce moment, des tout jeunes, et je les mets en réserve dans les appartements intimes, en attendant le moment où les auteurs seront célèbres. » Puis il prononça tout bas « C'est l'instant d'acheter des tableaux. Les peintres crèvent de faim. Ils n'ont pas le sou, pas le sou. » Mais Duroy ne voyait rien, entendait sans comprendre. Madame de Marelle était là, derrière lui. Que devait-il faire? S'il la saluait, n'allait-elle point lui tourner le dos ou lui jeter quelque insolence? S'il ne s'approchait pas d'elle, que penserait-on? Il se dit « Je vais toujours gagner du temps ». Il était tellement ému qu'il eut l'idée un moment de simuler une indisposition subite qui lui permettrait de s'en aller. La visite des murs était finie. Le patron alla reposer sa lampe et saluer la dernière venue, tandis que Duroy recommençait tout seul l'examen des toiles, comme s'il ne se fût pas lassé de les admirer. Il avait l'esprit bouleversé. Que devait-il faire? Il entendait les voix. Il distinguait la conversation. Madame Forestier l'appela. « Dites donc, monsieur Duroy. » Il courut vers elle. C'était pour lui recommander une amie qui donnait une fête et qui aurait bien voulu une citation dans les échos de la vie française. Il balbutiait « Mais certainement, madame, certainement. » Madame de Marelle se trouvait maintenant tout près de lui. Il n'osait point se retourner pour s'en aller. Tout à coup, il se crut devenu fou. Elle avait dit à haute voix « Bonjour, belle amie. Vous ne me reconnaissez donc plus ?» Il pivota sur ses talons avec rapidité. Elle se tenait debout devant lui, souriante, l'œil plein de gaieté et d'affection, et elle lui tendit la main. Il la prit en tremblant, craignant encore quelques ruses et quelques perfidies. Elle ajouta avec sérénité « Que devenez-vous? On ne vous voit plus ?» Il bégayait, sans parvenir à reprendre son sang-froid. « Mais j'ai eu beaucoup à faire, madame, beaucoup à faire. Monsieur Walter m'a confié un nouveau service qui me donne énormément d'occupation. » Elle répondit, en le regardant toujours en face, sans qu'il pût découvrir dans son œil autre chose que de la bienveillance. « Je le sais, mais ce n'est pas une raison pour oublier vos amis. » Ils furent séparés par une grosse dame qui entrait. Une grosse dame décolletée, aux bras rouges, aux joues rouges, vêtue et coiffée avec prétention et marchant si lourdement qu'on sentait, à la voir aller, le poids et l'épaisseur de ses cuisses. Comme on paraissait la traiter avec beaucoup d'égards, Duroy demanda à Madame Forestier « Quelle est cette personne ?»« La vicomtesse de Percemur, celle qui signe Patte Blanche. » Il fut stupéfait et saisi par une envie de rire. « Patte Blanche ? Patte Blanche ? Moi qui voyais en pensée une jeune femme comme vous, c'est ça, Patte Blanche ? » Elle est bien bonne, bien bonne. Un domestique apparut dans la porte et annonça « Madame est servie !»